Merci, bonjour, bonjour à tous, merci à l'Observatoire pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler d'une expérience qui a démarré en janvier 2010 et qui continue encore à ce jour. Donc c'est un retour sur 5 ans d'expérience qui sont parallèles, enfin une expérience qui est parallèle à celle que vous avez pu voir précédemment à Aide ou que vous verrez avec la flash test dans la présentation suivante. D'abord, un petit rappel voilà, des éléments de contexte épidémiologique, mais je crois que ça, vous avez déjà bien toutes les infos en tête. Ça, c'est la cascade de soins en France aujourd'hui, donc les travaux de Virginie Supervie pour la NRS, qui montrent, pour faire simple, que le principal et premier décrochage dans la prise en charge, c'est l'accès au dépistage, avec 19% des personnes vivant avec le VIH qui ignoreraient leur statut sérologique. Donc, voilà, fort de ces travaux, une volonté forte en France d'augmenter le dépistage sous toutes ses formes, comme l'a expliqué Laurent Geffroy. Ça, c'est une estimation de plus précise, plus fine de la composition de l'épidémie cachée en France. Et ce qu'on voit, c'est la seule donnée que je vais mettre en lumière, c'est que chez les HSH, la population des personnes non diagnostiquées s'élèverait à 9000 personnes et que rapportée à la population des gays globalement en France, ce serait 314 personnes pour 10 000. Donc on voit qu'une stratégie de dépistage ciblée auprès de cette population aurait un impact plus rapide que, par exemple, auprès de la population des femmes en population générale, où on voit qu'on trouverait que 2 personnes sur 10 000 personnes dépistées. Ça va, c'est clair, ce que je viens d'expliquer. Voilà, l'idée que, compte tenu de l'importance de l'épidémie cachée dans un groupe, un dépistage ciblé a du sens. Et puis, pour contribuer encore à cette analyse, toujours dans les travaux de Virginie Supervie, elle a fait un modèle mathématique qui met en lumière que les 20% qui ignorent leur séropositivité contribueraient à 64% des nouvelles infections. Et donc, en agissant, en réduisant ce cluster de l'épidémie cachée, on peut agir plus largement sur l'incidence de l'épidémie dans un groupe et en population générale. Plus précisément sur la population HSH, c'est des données que Nicolas Laurent a évoquées déjà. Donc, l'estimation de l'incidence HSH en France, elle est de 1%, 200 fois plus qu'en population générale. Elle serait de, la prévalence serait de quasiment un cinquième des gays dans les lieux de convivialité parisiens, 18%, et une incidence dans les lieux de convivialité, donc lieux de drague, lieux de rencontre, bars, etc., qui a été évaluée à 3,8 cas pour 100 personnes par an. Donc une incidence élevée, je ne reprends pas tout le reste, des pratiques à risque élevées et une incidence élevée, notamment au sein de la population des gays à Paris, fréquentant les lieux de drague. Donc il y avait plein de données au cours depuis 2009-2010 qui nous amenaient à penser qu'il fallait agir vraiment au cœur du quartier gay à Paris. Donc, dans ce contexte, on a souhaité, à une époque, on est en 2009, où les tests rapides n'étaient pas autorisés en France. Donc c'est le même contexte que celui de Comtest et DragTest. C'était un moment où il fallait expérimenter pour prouver l'intérêt d'un nouveau type d'offre de dépistage. On a eu envie de créer ce dispositif que je vais vous présenter, qui est situé en plein cœur de Paris, dans le Marais, dans les locaux d'une association qui existait déjà, le kiosque InfoSida, et qui faisait déjà de la prévention. Comme les tests rapides à l'époque n'étaient pas autorisés en France, on a eu recours à un dispositif de recherche biomédicale autorisé par les comités d'éthique à l'époque. Alors, ce dispositif est le suivant, c'est un dispositif dans les murs et pas hors les murs, c'est assez important, qui s'adresse exclusivement aux gays et hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, dans le Marais, comme je l'ai dit, qui se veut complémentaire des structures de dépistage existantes et qui est à la fois communautaire et médicalisé. Donc nous, on n'avait pas opté pour la démédicalisation, on avait opté pour un système avec des médecins et des infirmiers et des animateurs communautaires dans un même lieu. C'est évidemment gratuit, ce n'est pas anonyme mais confidentiel, je reviendrai là-dessus plus tard, avec et sans rendez-vous et sur des horaires adaptés, le soir, le week-end, tôt le matin, etc. L'offre a été conçue avec un dispositif de counseling pré- et post-test réalisé par le médecin et les infirmiers. Un dépistage par Vikia, résultat en 30 minutes. Comme on était dans les murs, on pouvait se permettre d'avoir un test qui donne son résultat en 30 minutes. Donc c'est pour ça qu'on a pu utiliser l'INSTI qui est un résultat immédiat. Nous, on avait le temps de faire le counseling pré-test, de réaliser le test, de faire passer un questionnaire et ensuite de remettre le résultat. Pour les sujets recevant un résultat TROD positif, on fait toujours immédiatement une confirmation sur Buvard, un DBS, qui est envoyé au laboratoire, et sous 48 heures, on a un ELISA complet et un Western blot complet, qui permet notamment de dater l'infection, et j'y reviendrai. Le consultant est invité à revenir pour cette remise de confirmation et il est immédiatement orienté dans le système de soins avec un rendez-vous pris dans la semaine dans un lieu de prise en charge qui peut être la ville, un centre de santé sexuelle comme le 190 ou l'hôpital. Voilà, ça c'est un petit schéma de l'organisation. Au total, le patient il passe entre 45 minutes et une heure dans le centre. Voilà, accueil, counseling, etc. Administration d'un questionnaire informatisé et remise du résultat. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les chiffres, ça c'est notre activité sur 4 années. Bon, comme vous le voyez, on est allé croissant, puisque le nombre de consultants est passé de 2300 la première année à environ 4000 désormais, et 2014 on avait les mêmes données. Depuis l'origine, à ce jour, on a vu plus de 15 000 hommes différents sur notre dispositif. On a réalisé, donc au 31 décembre 2013, on avait fait 15 000 tests, depuis on en a donc fait 19 000. Voilà, avec un taux de positivité, en fait, on ne peut pas vraiment parler de prévalence, mais un taux de positivité élevé, très élevé au début. On était à 2,22% des patients qui recevaient un résultat positif, 2,55% l'année suivante. Et depuis, ça a un peu baissé. Si on regarde la population totale, mais si on prend que le public HSH, on reste quand même à 1,8% des consultants qui reçoivent un test positif. Je dis des consultants puisqu'on annule les doublons, les personnes qui reviennent plusieurs fois, on calcule bien la fréquence de positivité sur le nombre de personnes et pas sur le nombre de tests réalisés. Voilà, un chiffre important, c'est la proportion d'infections récentes, mais je vais faire un focus là-dessus après. Ça c'est juste un petit élément de contexte. Donc quand on a ouvert le checkpoint en janvier 2010, les tests rapides n'étaient pas autorisés, mais les pouvoirs publics sont allés relativement vite puisque dès novembre 2010 les tests rapides ont été autorisés en contexte communautaire en France. Donc à partir de 2011, il y a eu des éléments de comparaison, il y a eu un élargissement en fait du dispositif, notre offre expérimentale rentrant dans ce périmètre plus large de droit commun. Et donc en 2013, comme je disais, il y a eu 56 000 tests rapides réalisés en contexte communautaire en France, dont 389 ont permis de découvrir des séropositivités. Et donc là, vous avez une représentation assez simple de la proportion de checkpoints dans cette offre. Donc on fait 7% des tests au total en France, mais on trouve 16,7% des positifs dépistés par TROD. Et en Ile-de-France, là aussi, alors qu'on fait 16% des tests, mais on compte pour 25% des découvertes de séropositivité. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on est meilleur que les autres, ce n'est pas du tout le but de cette diapo, mais bien de montrer qu'en étant au plus près des populations les plus exposées, dans lesquelles il y a une incidence très forte, bah, c'est assez logique, on trouve plus de positifs. Alors, je vais faire deux focus sur Checkpoint, parce que voilà, après vous poserez des questions sur le fonctionnement si vous voulez. Le premier, c'est sur la précocité des découvertes de séropositivité. Et le second, c'est sur le lien vers le soin. Comme vous avez peut-être compris dans mon intervention de ce matin, ce qui compte pour nous, et c'est pour ça qu'on avait fait le choix de la médicalisation, c'est pas seulement de dépister, c'est de dépister et de traiter, et de mettre réellement en œuvre une stratégie TASP. Alors, on nous a beaucoup dit, quand on a ouvert le checkpoint et qu'on a décidé d'utiliser uniquement des tests rapides, vous ne trouverez pas les primo-infections, vous ne trouverez pas les cas incidents. La fenêtre, c'est 3 mois, donc c'est quand même moins performant qu'un test ELISA classique. Et on a en fait fait la démonstration inverse. Sur les 4 premières années, sur 13 000 et quelques tests réalisés auprès de 12 000 gays, 246 sujets diagnostiqués positifs, des consultants jeunes pour 70% entre 18 et 35 ans. Voilà, bon, vous avez un rappel des fréquences de positivité. Parmi ces 246 sujets, comme on avait réalisé systématiquement un Western blot envoyé en laboratoire, on a pu obtenir la datation des infections selon la classification FIBIG. Alors, je ne suis pas virologue, je ne pourrais pas précisément vous expliquer la genèse de cette classification. En tout cas, elle permet de classer les infections en fonction de leur stade, aigu, primo, infection récente, c'est la deuxième ligne en bas, ou infection supérieure à 6 mois. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que 6,5% étaient en infection aiguë. que si on fait la somme des infections aiguës et des primo-infections, c'est-à-dire l'ensemble des infections de moins de 3 mois, on était à plus de 30%. Pour nous, c'est vraiment un argument fort face à ceux qui résistent aux tests rapides en disant qu'on risquerait de passer à côté de cas. Dans un dispositif comme le nôtre, non seulement on ne passe pas à côté, mais en plus, comme on est médicalisé, on peut immédiatement les orienter vers le soin. Un autre élément important, c'est que en étant médicalisé ou en ayant en tout cas des soignants dans le paysage, on a pu repérer des positifs qui recevaient un résultat, un réactif négatif, mais qui étaient en primo-infection symptomatique. Donc la présence de soignants a permis de repérer sur symptômes et d'orienter dans le soin des primo-infections flambantes du début. À l'inverse, on a eu dans un cas un test Vicia positif, alors que la personne était encore négative sur Ouzélisa et ne serait pas passée aperçue dans un CDAG classique. Donc le dispositif se révèle utile pour détecter des formes asymptomatiques et aider à l'intégration dans des services de soins. Voilà, deuxième focus, la question du lien vers le soin, qui était notre préoccupation première, non seulement dépister, mais faire entrer dans le soin le plus vite possible. Là, je me contente de parler des deux dernières années, 2012-2013. Sur 126 patients dépistés positifs, 120 sont entrés dans le système de soins avec une procédure de rappel. Donc, on est sûr qu'ils ont non seulement honoré leur premier rendez-vous, mais été mis sous traitement antirétroviral. Là, vous avez une représentation des différentes orientations. Donc, là, c'était au choix du patient, la ville, l'hôpital, le centre de santé sexuelle, le 190, dont vous avez rencontré le directeur il y a un mois, Michel. On sait grâce à notre procédure de rappel que 56% ont été mis rapidement sous traitement, c'est-à-dire en moins de 2 mois. Plus précisément, la diapo suivante, je vais vous parler des 35 patients qui ont été orientés vers le 190. Alors ceux-là, c'était principalement les personnes en primo-infection, parce qu'on avait un partenariat où ce qui était important pour nous, c'est que les personnes en primo soient mises sous traitement très vite. Et à l'hôpital en France, le très vite est assez relatif. Donc on savait qu'au 190, on pouvait vraiment être sûr d'une prise en charge rapide. Donc sur ces 35 patients, 31 ont été mis sous traitement antirétroviral, dont 22 en moins de 20 jours et 5 en moins de 3 mois après le test rapide. 3 patients ont refusé le traitement et un a été adressé en urgence à l'hôpital parce qu'il était déjà avec des kaposis et en stade sida avancé. Et parmi ces 35 patients, 31 présentaient une infection de soit très récente, soit de moins de 6 mois. Encore une fois, nous, ce qui était important, il y a un certain nombre de résultats qui ont été évoqués sur HPTN 052, les cohortes primo, les patients Visconti, je ne sais pas si ça vous parle, donc ces patients qui sont contrôleurs, contrôleurs après avoir eu une initiation de traitement en primo-infection, 6 ans en médiane de traitement antirétroviral, puis un arrêt du traitement et qui continuent à contrôler le virus. C'est des tout petits cas, c'est des tout petits N, c'est pas encore exploitable en population générale, mais on voit bien qu'une initiation très précoce du traitement en primo-infection permet de préserver les réservoirs et d'agir durablement sur la réplication virale dans l'organisme. C'est pour nous, en tout cas, un enjeu clé de lutte contre l'incidence du VIH. Donc, en conclusion préalable, au préliminaire, le checkpoint, c'était des résultats probant par rapport à ses objectifs. On ne parle pas de toute la population, mais bien des gays parisiens, donc urbains, plutôt CSP+, bien insérés. Un dispositif qui était attractif, adapté aux besoins et aux modes de vie, qui favorisait le dépistage en routine, puisqu'on a un taux de retour, une fidélisation, une clientélisation de nos patients qui est assez importante. En gros, on a 20% des tests qui sont réalisés auprès de personnes qui reviennent régulièrement. Ce qui ne nous empêche pas d'attirer aussi des nouveaux, mais on a un effet de clientélisation. On fait du counseling, ça comme dans plein de dispositifs. On peut repérer d'éventuels primos sur des signes cliniques et orienter immédiatement. Plus largement, on travaille pas tout seul, on est bien intégré dans un réseau de soins, comme vous l'avez vu. L'important, c'est cette articulation avec l'ensemble des dispositifs en ville et à l'hôpital. Mais malgré tout ça, un dispositif qui, encore tout récemment, était très précaire et très déficitaire d'un point de vue budgétaire. D'abord, on a mis du temps à faire reconnaître en France, dans la communauté scientifique, nos résultats. Checkpoint était vu comme une sorte de CDAG bis, moins intéressant ou moins innovant que les offres démédicalisées. dans un premier temps. Bon, voilà, on a fait du chemin et aujourd'hui, je crois que tout le monde s'accorde à dire que tout ça est complémentaire et travaille ensemble. Mais au début, on avait du mal à rendre visibles ces résultats. Après, d'un point de vue économique, notre seul mécanisme de financement de droit commun, il est à ce jour un dispositif expérimental qui doit s'arrêter. On ne sait pas quand, qui doit être évalué, on ne sait pas comment. Bon. Et en plus, fondé sur une tarification à l'acte et dimensionné sur des modèles hors les murs, donc moins coûteux en théorie qu'un dispositif dans les murs avec des soignants. Et puis, ça va peut-être vous paraître fou en Belgique, mais en France, les pouvoirs publics demeurent très, très ambivalents sur la dimension communautaire, avec des représentants de la santé publique à Paris qui sont venus me voir pour me dire « Vous ne pouvez pas accueillir exclusivement des gays, c'est discriminant, ça tombe sous le coup de la loi, vous devez accueillir d'autres publics. » Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, donc, pendant 2 ans, on a accueilli d'autres publics en essayant de conserver quand même voilà, un esprit communautaire, mais il y a on ne peut pas dire aux gens de ne pas venir, donc on affichait des rainbow flags, on met des photos de pénis en érection, enfin voilà, y a une espèce de, pour que ça reste communautaire, mais il y avait des noms communautaires. Et ce qui nous a frappé, c'est que parmi les, on a reçu environ 1 millier de patients qui étaient des femmes ou des hommes hétérosexuels, et parmi ce millier de patients, on a eu une fréquence de positivité très élevée, beaucoup plus élevée qu'en population générale. On a eu 6 positifs pour 1000 personnes. Donc, ce qui nous laisse penser qu'un dispositif comme celui-là, même quand il ne s'adresse pas à une population clé, va attirer des gens qui savent qu'ils ont pris des risques. En tout cas, c'est pas n'importe qui, même quand on s'adresse à la population générale, qui vient vers ce type de dispositif. Et pour finir sur la précarité, bon, voilà, nous, on est à un coût moyen de 50 euros par consultation et on perd 12 euros à chaque fois qu'on fait une consultation. Pour l'instant, on a financé ça sur fonds propres. Alors, quel avenir dans ce contexte? D'abord, on a continué à faire de la recherche, puisqu'en France, quand il n'y a pas d'argent dans le droit commun, il y en a dans l'innovation et la recherche. Ça vous a été présenté par Laurent Geffroy ce matin, il y a désormais, là, en 2015, une actualité législative et réglementaire qui nous permet d'envisager la suite. Alors, la recherche, c'est ce projet que je vais vous présenter là en 5 minutes, ANRS Cube. Donc, c'est une recherche qui a démarré l'été dernier, en juillet, qui vise à évaluer l'acceptabilité d'une offre globale de dépistage rapide du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C, tout ça par TROD, et d'une offre de vaccination contre l'hépatite B en milieu associatif communautaire et médicalisé, bon, ça c'est toujours notre modèle, mais surtout auprès de 3 publics prioritaires. Toujours les gays au checkpoint, mais aussi les travailleurs et travailleuses du sexe, migrants en précarité dans un local qu'on gère dans le nord de Paris, et les usagers de drogue, polyconsommateurs, injecteurs ou non, dans un centre de soins pour toxicomanes. Ça va. Donc ça s'appelle Cube parce que c'est 3 TROD, 3 viroses, 3 sites, 3 publics prioritaires. Voilà. L'objectif de cette recherche, c'est d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de cette offre combinée. Donc on mesure les taux de proposition, d'acceptation, de réalisation, de mesurer le lien vers le soin, donc l'entrée effective dans le soin avec une procédure semblable à celle du checkpoint qui vérifie non seulement que les gens ont accédé aux soins, mais aussi ont été mis sous traitement. Et dans le cas de l'hépatite C, ça va être un gros enjeu, puisque vous savez sans doute qu'en France, désormais, il y a des traitements, mais qu'ils coûtent très cher, trop cher. Voilà, c'est question de savoir si nos patients, et notamment usagers de drogue, précaires, etc., auront accès à ces nouveaux traitements à action directe est un des enjeux, et de mesurer le taux de proposition d'acceptation et de réalisation de la vaccination. On va inclure pendant 12 à 18 mois, là pour l'instant on est dans la phase préalable, et il y a évidemment un volet quali sociologique avec une analyse des représentations des soignants et des usagers, de leurs attitudes et de leurs pratiques vis-à-vis du dépistage et de la vaccination. Je n'ai aucun résultat à vous présenter pour l'instant, puisqu'on a démarré en juillet pour un site et en septembre pour les 2 autres sites. Je peux juste vous dire, comme ça, de manière préalable, qu'il y a des représentations sur la vaccination contre l'hépatite B très fortes qui demeurent en France chez les soignants, avec un taux de proposition du vaccin qui est très faible, alors même qu'on est dans un dispositif qui devrait encourager la vaccination. Voilà. Après, les dépistages sont plutôt bien acceptés et on a des taux de prévalence, notamment chez les travailleuses du sexe, qui sont très élevés, mais qui en fait étaient des séropositivités connues dans la plupart des cas. Voilà, pour conclure, l'avenir pour nous, c'est la réforme que vous a présentée Laurent Geffroy ce matin, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2015, dans son article 47, qui vient créer des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, et qui, et c'est surtout ça qui est intéressant, inscrit enfin dans la loi française la notion de population les plus concernées. Bon, on ne parle pas de communauté, mais quand même, on va dans l'idée qu'il y a des populations plus exposées que les autres. L'inscription aussi dans le texte d'une approche globale de santé sexuelle au sens de l'OMS. L'importance des associations qui est reconnue dans la loi en elle-même. Et le caractère facultatif de l'anonymat. Alors, je sais que l'anonymat, pour vous, aujourd'hui, c'est plutôt un enjeu. Il faudrait qu'en Belgique, il y ait de l'anonymat. Mais nous, en France, c'est plutôt l'inverse. C'est que les centres de dépistage anonymes et gratuits, avec le dogme de l'anonymat, ne favorisent pas l'entrée dans le soin. Et donc, aujourd'hui, lever le caractère obligatoire de l'anonymat est pour nous une victoire. Voilà. Je remercie donc l'Observatoire du Sida et des Sexualités, l'équipe du Checkpoint, nos partenaires et nos financeurs. Et je voudrais juste faire une remarque pour ouvrir la discussion. Il me semble qu'en Belgique, il y a actuellement, notamment à Bruxelles, des projets de dépistage communautaire démédicalisés. Et je regrette un peu qu'on n'ait pas vu leurs résultats aujourd'hui pour les comparer, parce qu'en fait... Là, on a beaucoup échangé entre Français. Et pour ma part, les travaux de Comtest, DragTest, de FlashTest, ceux de Joseph, je les connaissais moins. Mais en tout cas, tous les projets français, je les connaissais par cœur. Et je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur les projets de ce côté-ci. Voilà.